Une excellente Pentecôte à chacun et chacune. C'est toujours très spécial quand on arrive à une des étapes du plan de Dieu par une de ces fêtes comme ça. C'est vraiment très particulier. Et on a l'occasion à ce moment-là d'approfondir encore davantage ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il prépare pour l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, donc, c'est la troisième fête dans le plan de Dieu. Il y a de nombreux passages qui décrivent cette fête-là. Je vais vous en lire simplement un pour introduire mon message aujourd'hui. On le trouve dans Lévitique 23, versets 15 à 22. Verset 21 dit ceci. « Ce jour même, en parlant d'aujourd'hui, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. » C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes convoqués devant Dieu pour être enseigné, pour fraterniser, pour rêver des choses qui viennent et pour apprécier ce que Dieu fait pour nous et ce qu'il fait pour le monde. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pourquoi? Parce que c'est un sabbat. Donc, on ne fait pas nos travaux habituels et ces choses-là. C'est un sabbat. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Et nous, on perpétue l'application de cette règle, de ce commandement qui nous a été donné. Vous savez, Dieu a institué cette fête dans l'Ancien Testament pour une nation physique, la nation d'Israël qu'il s'était choisie. Et comme vous le savez, la nation physique d'Israël, à ce moment-là, n'avait pas accès au Saint-Esprit de Dieu. Elle n'avait pas accès au Saint-Esprit de Dieu, absolument pas. En ce jour très spécial, par contre, il leur a donné ses lois, les 10 commandements du haut du mont Sinaï. Ces lois, en fait, elles ont toujours existé parce qu'elles reflètent son caractère. Mais il les a codifiées ce jour-là sur le mont Sinaï pour eux. Il les a mis dans un code, les 10 commandements, ou comme on voit dans certaines versions, les 10 paroles de Dieu, selon lesquelles on doit vivre. À l'époque du Nouveau Testament, lors de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère, Dieu, à ce moment-là, a donné ce qui manquait pour être capable de vraiment observer les lois. Dieu a donné sa puissance. Il a répandu son Saint-Esprit sur un groupe d'individus, les premiers appelés de l'époque, pour former l'Église de Dieu. Et ça a été le jour de la fondation de l'Église du Nouveau Testament. C'était une autre étape dans son plan. Pourquoi est-ce que Dieu a donné le Saint-Esprit à un groupe d'individus pour la première fois? Dans l'Ancien Testament, il avait donné son Saint-Esprit, mais simplement à des individus isolés au cours de l'histoire. Ses prophètes, par exemple, le roi David, Ésaïe, les autres qu'on voit dans la Bible, ses serviteurs. Mais dans le Nouveau Testament, il donne son Saint-Esprit à un groupe plus grand pour être capable d'observer ses lois, pour les rendre capables, justement, de vivre selon ces lois-là, non seulement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, non seulement dans la lettre, mais aussi dans l'esprit de la loi. On ne peut pas y arriver tout d'un coup, parce qu'à partir de notre appel, c'est un processus de marche vers la perfection. Et dans ce processus-là qui se fait dans le temps, Dieu nous donne son aide, son esprit, il faut lui demander, il faut l'utiliser, mais il nous la donne pour qu'on soit capable de s'améliorer et de changer. Alors, à partir de la fondation de l'Église du Nouveau Testament, il a mis dans des individus son Saint-Esprit pour les rendre capables d'observer ses lois, donc de changer. Parce que avant que Dieu nous appelle, on n'observe pas ses lois. Sinon, par accident. Et si on le fait, on en tire les bénéfices. Mais lorsqu'on connaît le vrai Dieu, qu'on connaît ses lois, qu'on a son aide et que volontairement on les met en pratique, on en tire d'énormes bénéfices. Et Dieu donne son esprit pour qu'on soit capable aussi d'accomplir son œuvre. Parce qu'il a donné une mission, comme on a vu dans la sermonnette tantôt. Il a donné une mission à son Église du Nouveau Testament d'annoncer au monde entier les choses qui viennent, non pas pour convertir le monde, mais pour témoignage. Et après le retour de Christ, là, Dieu va appeler le reste de l'humanité et va leur offrir son Saint-Esprit pour être capable à leur tour de comprendre son plan et de vivre selon ses lois, de se purifier, de changer leur voie mauvaise. Et qu'on désire ce jour-là, parce qu'on voit les gens actuellement dans le monde souffrir de plus en plus et de façon horrible, de toutes sortes de façons, parce que ces lois sont transgressées. Parce que les lois de Dieu sont transgressées, les humains se font mal les uns les autres et se font mal à eux-mêmes. Et c'est pour ça que Dieu mentionne à un moment donné que s'il n'intervenait pas, comme c'est marqué dans Matthieu, l'humanité se détruirait complètement. C'est vers ça qu'on s'en va lorsqu'on regarde la scène mondiale, lorsqu'on regarde ce que les humains sont capables de faire. Alors Dieu fait de même aujourd'hui. À mesure qu'il appelle des gens, il leur met à leur disposition son Saint-Esprit pour qu'ils commencent à comprendre. Son Saint-Esprit est avec eux. Et au moment de leur baptême, lorsqu'ils se sont repentis, au moment de leur baptême, leurs fautes sont effacées. Et après, un ministre de Dieu leur impose les mains. Et là, ils reçoivent en eux le Saint-Esprit de Dieu, sa présence en nous. Et là, c'est ce que la Bible appelle l'homme nouveau qui sort des eaux du baptême, qui commence une vie nouvelle. C'est le jour 1 de sa vraie vie spirituelle, parce que c'est le jour 1, pour cette personne-là, de son cheminement vers la vie éternelle, qu'elle n'a pas avant. L'Esprit de Dieu en nous, c'est en même temps un dépôt de la vie éternelle, un premier paiement que Dieu donne, si vous voulez, de la vie éternelle qu'il nous accordera au retour du Christ si nous sommes fidèles jusque-là. Si nous persévérons, si nous travaillons à changer, si nous le supplions de nous donner son aide et si nous supportons l'œuvre et si nous nous supportons les uns les autres. Et voyez-vous, quand on reçoit l'Esprit de Dieu au baptême comme ça, il doit y avoir des changements après. Ça doit paraître. Et on doit être capable nous-mêmes de s'évaluer pour dire « Est-ce que j'ai changé vraiment? » Et quand vient la Pentecôte comme ça, c'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai changé vraiment au cours de l'année, par exemple? Est-ce que j'ai amélioré ma façon de faire à certains aspects? Il ne faut pas avoir peur de le regarder en face, parce qu'il y a des choses que j'ai encore à changer moi-même et que vous avez encore à changer. Mais il faut les identifier puis travailler dessus, demander l'aide de Dieu. Par contre, il faut regarder aussi ce en quoi on a réussi à avancer ou à progresser spirituellement pour s'encourager. Parce que je reviens là-dessus, si nous sommes la personne nouvelle sortie des eaux du baptême qui a reçu le Saint-Esprit, ça doit paraître. Il doit y avoir des fruits qui sont là. Et c'est intéressant parce qu'ici, je le vois dans l'Église, qu'il y a des fruits du Saint-Esprit, qu'il y a plus d'amour, qu'il y a plus de foi, qu'il y a plus de solidité. C'est pas parfait, mais c'est là, je le vois. Et ça, c'est encourageant. Si moi, je le vois avec mes yeux humains, Dieu qui observe les siens, spécialement au jour de fête, voit où nous sommes rendus, connaît nos besoins, puis est prêt à nous aider encore à aller beaucoup plus loin. Alors, les fruits du Saint-Esprit doivent être présents dans nos vies. Et ces fruits-là, ce sont les fruits du même Saint-Esprit qui a été reçu par les premiers disciples quand l'Église a été fondée. Je vais vous dire pourquoi je mentionne les choses de cette façon-là. Vous allez voir tantôt. Les premiers disciples ont changé totalement. On va voir quelques exemples tantôt. Ils ont changé du tout au tout, et ce n'était pas par leur force, c'était par la force de Dieu. Et ils ont accompli de grandes choses. Allez à Acte 1, s'il vous plaît. On va voir comment des gens qui ne connaissaient pas le vrai Dieu, qui n'agissaient pas vraiment selon son cœur, qui ne comprenaient pas son plan, qui avaient leurs faiblesses, leurs défauts, leurs misères, ont changé du tout au tout, ont été capables d'accomplir des exploits. Maintenant, ce matin, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais qu'on s'imagine avoir été avec ses premiers disciples-là, non seulement le jour de la Pentecôte de l'an 31 de notre ère, mais au cours des 50 jours qui ont précédé cette première Pentecôte, à partir de la mort du Christ et de sa résurrection. Essayez de vous imaginer que vous étiez là, que vous avez assisté aux choses que je vais vous montrer. Et ça, ça nous aide beaucoup à voir la grandeur de la puissance de Dieu. Et si elle leur a été donnée et leur a permis d'accomplir ces choses-là, ça va vous encourager de savoir que cette même puissance, c'est celle-là que Dieu vous offre, que celle-là, c'est celle-là que Dieu vous donne pour que vous soyez vous aussi capables d'accomplir de grandes choses. Alors, imaginons-nous être parmi ces disciples-là. On se reporte dans le temps. Les disciples venaient de vivre 50 jours sans pareil dans toute leur vie. Des jours inoubliables. D'abord, 50 jours auparavant, avant la Pentecôte, première Pentecôte du Nouveau Testament, là où l'Esprit a été répandu sur un homme, le Christ, leur maître, avait été brutalement exécuté. Ça, il l'avait vu. Il l'avait suivi pendant plusieurs années. Il avait vu le Christ être tué. Et plusieurs ont pensé, même à ce moment-là, que ça n'irait pas plus loin. Ils sont retournés pêcher, vous vous rappelez? Ils n'avaient pas encore l'esprit en eux. Ils n'avaient pas encore toute cette force-là. Ils n'avaient pas encore tout compris. Alors, ils l'avaient vu mourir. Et après, ils l'ont vu revenir à la vie, ressuscité. Mais ça a même pris un certain temps avant qu'ils le réalisent. On le voit par les textes. Alors, imaginez-vous, on est avec eux, on a vécu ces choses-là, on a vu le Christ mourir, on a su qu'il était ressuscité, on l'a vu être ressuscité. Et après sa résurrection, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant les 40 jours suivants, comme on voit dans la Bible, il leur avait encore enseigné directement. Il était revenu à la vie et il leur enseignait la même chose qu'il leur avait dit auparavant, avant qu'ils soient mis à mort. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert et qu'il eut ressuscité, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. La même chose qu'il avait annoncé avant. Alors, mettez-vous au milieu de ces gens-là, là. Ils le voyaient revenir, ils savaient qu'il était mort, il avait ressuscité, et là, il se faisait enseigner la même chose. Il continuait à être ses étudiants, si vous voulez. Allez à 1 Corinthiens, chapitre 15, maintenant. On va voir plus loin, 1 Corinthiens 15. Au cours de ces 40 jours-là, le Christ est apparu à quelques-uns individuellement, en personne, un à un, et il est apparu aussi à plusieurs disciples ensemble en même temps, à différentes occasions. 1 Corinthiens 15 et le verset 5 à 8. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Puis voyez-vous, il s'est manifesté plusieurs fois, là, dont la plupart sont encore vivants au moment où Paul écrivait ces choses, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Là, c'est Paul qui parle. Alors, le Christ s'est manifesté après sa résurrection à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? Ça a dû être fascinant. Puis ça devait être, en même temps, amener une certaine confusion. C'était un autre univers qui commençait, dans le fond. Des choses jamais vues, jamais vécues, ça dépassait l'entendement humain. Les disciples ont parlé avec lui. Les disciples l'ont touché. Ils ont mangé avec lui. Allez dans Jean 21. Jean 21. J'aimerais qu'on voit tout ça comme un film réel qui s'est réellement produit. Jean 21. Ici, vous avez le récit de la pêche miraculeuse, là, alors que les disciples étaient retournés pêcher, puis ils n'ont pas pris rien durant la nuit. Puis à un moment donné, il y avait un homme sur le bord du rivage qui a dit, « Oui, mais jetez le filet du côté droit de la barque. » Ils l'ont fait, et là, ils ont pris plein de poissons. Et à un moment donné, verset 7, ils ne pouvaient plus retirer le filet, tellement le filet était chargé de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Lui, il l'a reconnu. Même s'il ne reconnaissait pas son visage, vu que ce miracle-là s'était produit, il savait que c'était le Christ qui était en action. Il l'avait déjà rencontré avant aussi, après sa résurrection, là. C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, il se jeta à la mer, il est allé vers le Christ. Et on voit plus loin qu'il y avait du charbon de bois allumé sur le bord de la plage. Le Christ avait préparé ça. Il avait amené du pain. Et regardez le verset 13 et 14 du même chapitre. Jésus s'approcha et prit le pain et le rendonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Fantastique! Ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé ensemble. Le Christ, à ce moment-là, avait pris un corps physique, comme un être spirituel peut faire, comme les bons anges peuvent faire à l'occasion. Lorsqu'ils ont des messages à aller livrer, lorsqu'ils ont certains travail à faire de la part de Dieu, ils peuvent prendre une forme physique. Le Christ a repris sa forme physique à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils ont pu lui toucher. Quand Thomas ne l'avait pas cru, et quand le Christ l'a vu, il dit « Thomas, touche à mes plaies ». Donc, le Christ avait repris sa forme physique. Je vous dis tout ça pour que vous voyez. C'est quoi la puissance de Dieu? Qu'on se mette dans cette circonstance-là qu'eux ont vécu devant tous ces miracles qui se sont accomplis, qui décrivent la puissance extraordinaire du Tout-Puissant. Vous pourrez aller voir dans Luc 24. Luc 24, on a encore ici un beau témoignage de ce que le Christ faisait, de la puissance de Dieu. Luc 24. Vous avez ici, à partir du verset 13, la description, vous savez, des deux disciples qui s'en allaient vers Emmaüs, qu'à un moment donné, il y a un homme qui s'est approché d'eux, c'était le Christ, ils ne l'ont pas reconnu sur le champ, mais seulement plus tard, vous pourrez lire le contexte, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais à un moment donné, ils l'ont reconnu, ils ont reconnu que c'était le Christ, et après ça, ils sont allés à Jérusalem vers les apôtres qui étaient assemblés. On le voit au verset 33, « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Verset 36, « Tandis qu'ils parlaient de la sorte, ils étaient en train d'expliquer aux autres qui avait vu le Christ sur le chemin d'Emmaüs, et regardez, verset 36, « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, le Christ, se présenta au milieu d'eux. » Wow! Ça devait être quelque chose de très impressionnant. Le Christ revenait en personne au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et c'était encore là une autre expérience extraordinaire pour eux. Parce que là, ils voyaient en même temps ce qui attend les êtres humains fidèles, appelés par Dieu, qui deviendront un jour des êtres spirituels et qui auront la responsabilité, après le retour de Christ, d'enseigner les êtres humains physiques sur la terre. Ils pourront, comme le Christ faisait à ce moment-là, reprendre leur forme physique pour que les humains les voient, pour que les humains les entendent, exactement comme le Christ a fait ici. Il dit, regardez, c'est bien moi, touchez-moi, je suis réel. Mais j'ai pris ma forme physique. En même temps, ça nous donne une image de ce qui nous attend si nous sommes fidèles, quand nous allons pouvoir aider les gens et prendre volontairement une forme physique. Verset 40, et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Mais vous, ils étaient dépassés par les événements. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger? » Pour que vous voyez vraiment que je suis physique, que je suis humain. Je peux manger? Avez-vous quelque chose à manger? Est-ce qu'on peut prendre un bon lunch ensemble? Avez-vous quelque chose à manger? 42, ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea avec eux. Ils ont mangé ensemble, comme on va faire tantôt, entre les deux assemblées. Ça aussi, ça devait être drôlement impressionnant. Le Christ qui avait passé à travers tous ces événements-là, qui avait annoncé les choses qui allaient lui arriver, et elles étaient arrivées, et là, qu'il se présentait devant eux, en tant qu'être spirituel, mais prenant sa forme physique, continuant à leur enseigner exactement les mêmes choses. Fantastique. Ça a dû être une expérience époustouflante pour ces hommes-là et ces femmes-là. Alors, après ces 40 jours, qu'est-ce qui est arrivé? Après les 40 jours suivant sa résurrection, où il leur est apparu, des fois à un, des fois à deux, des fois à plusieurs en même temps, comme on voit, par la puissance de Dieu, après ces 40 jours, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Christ est monté au ciel sous leurs yeux. Acte 1. Acte 1. On va mettre les événements en perspective, ça va nous aider encore davantage à voir la grande puissance de Dieu. Acte 1. Alors, après donc 40 jours, je reviens à ça, le Christ est monté au ciel sous leurs yeux. Mais après avoir fait quelque chose de spécial, après leur avoir rappelé la promesse, je dis rappeler la promesse parce qu'il l'avait faite avant la promesse, après leur avoir rappelé la promesse que 10 jours plus tard, à la Pentecôte, ils allaient recevoir quelque chose de spécial, un don de Dieu, le don de Dieu qu'il leur avait promis. Vous savez, on a vu un message dernièrement dans un sermon où c'était dit que le Christ avait soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et il n'avait pas reçu le Saint-Esprit sur le champ, mais ça annonçait la Pentecôte. et il l'avait promis à d'autres occasions aussi. Mais là, la Pentecôte était, allait venir, et il dit, restez à Jérusalem, allez à Jérusalem, restez là, et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit dans 10 jours. Et cette puissance-là, le don du Saint-Esprit, allait tout changer dans leur vie, allait changer leur vie même, allait changer leurs activités. À qui? À ceux qui s'appliquaient à obéir à Dieu, ceux qui étaient appelés et qui s'appliquaient à obéir à Dieu. Acte 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, le Christ était encore avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez, quoi? Baptisés du Saint-Esprit. Vous allez recevoir cette puissance-là. » Et regardez maintenant le verset 8, il définit qu'est-ce que c'est, la puissance qu'il allait recevoir. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Et en grec, c'est « dynamis », comme « dynamo », si vous voulez, ou « dynamique ». C'est une puissance, ce n'est pas une personne, ce n'est pas la troisième personne d'une trinité, comme enseigne la fausse doctrine de plusieurs églises du monde. Ça va à l'encontre de la nature même de Dieu de dire que le Saint-Esprit est la troisième personne d'une trinité. Le Saint-Esprit, comme on voit clairement dans la Bible à plusieurs endroits, et en particulier ici, c'est la puissance de Dieu, tout simplement. Alors le Christ dit, « Éloignez-vous pas de Jérusalem, dans quelques jours, donc dans 10 jours à ce moment-là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À partir de là, vous allez avoir une force en vous pour accomplir la mission que je vous ai confiée. Vous allez être mes témoins, c'est-à-dire vous allez témoigner de mon message, vous allez témoigner du plan de Dieu, vous allez annoncer les choses qui viennent, et c'est le rôle de l'Église. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça allait commencer par là, il était sur place. À Jérusalem, dans toute la Judée, donc dans le pays avoisinant, ça allait aller plus loin, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, en disant ça, le Christ avait déjà, lui, tout son plan à l'esprit, jusqu'à nous qui sommes parvenus à la fin du monde, où la bonne nouvelle doit servir de témoignage à toutes les nations. Et c'est à ce moment-là que doit venir la fin, comme c'est marqué dans Matthieu 24. Cette bonne nouvelle sera annoncé dans le monde entier, non pas pour convertir, mais pour servir de témoignage. Et à ce moment-là viendra la fin de cette société, pour inaugurer une nouvelle société sous le gouvernement de Dieu, où tous seront appelés et auront accès à ce moment-là au Saint-Esprit, auront accès à l'arbre de vie, se verront offrir la possibilité d'avoir la vie éternelle. Ils auront le choix. Tous ces événements-là dont je viens de vous parler, c'était des événements éclatants, là, les 50 jours qui avaient précédé la Pentecôte, tous ces jours-là qui avaient précédé la Pentecôte, la fondation de l'Église, le don du Saint-Esprit, ce jour-là. Maintenant, allons à Acte 2. On est tout prêt. Allons dans Acte 2. Qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire le jour de la Pentecôte? Annoncé par le Christ à plusieurs reprises et pour lequel il avait dit à ses disciples, restez à Jérusalem et là vous allez recevoir une puissance. Là, je fais une petite parenthèse ici. Ça nous montre quelque chose. Si quelques-uns des disciples qui ont reçu cette directive-là n'étaient pas restés à Jérusalem et ne s'étaient pas assemblés le jour de la Pentecôte, pensez-vous qu'ils auraient reçu le Saint-Esprit? Absolument pas. Ça veut dire que quand Dieu nous dit de faire quelque chose, il faut le faire. Même s'il y a des choses qui nous dépassent dans la demande, si Dieu nous montre qu'il nous faut faire certaines choses, il faut le faire. Si certains ne l'avaient pas fait, ils n'auraient pas été imprégnés du Saint-Esprit, ils n'auraient pas reçu cette puissance d'en haut. Acte 2, on va lire le verset 1 à 4, ça décrit ce qui s'est passé ce jour-là. Première Pentecôte de l'an 31, en l'an 31 de notre ère. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc ils avaient obéi à la directive. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et quand on dit vent impétueux, ça devait être assez solide, assez impressionnant comme vent. Tellement que les gens dans la ville ont accouru vers cet endroit-là par après. et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ça nous montre en même temps que l'appel de Dieu est individuel et que le don de son Saint-Esprit, c'est individuel aussi. OK? Même si là, il était donné en même temps à un groupe pour la première fois. Se posèrent sur chacun d'eux. Et qu'est-ce qui s'est produit à partir de là? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se mirent à parler en d'autres langues que leur langue maternelle, tout simplement. C'était pas un charabia incompréhensible comme certaines religions aiment à le croire et à se donner en spectacle. Absolument pas. C'est clair, la Bible dit, ils ont commencé à parler en d'autres langues que la leur. OK? Il y a eu plusieurs miracles ce jour-là. Les sons, le grand vent impétueux, même jusque dans la bâtisse. Et ça marquait le début de l'Église du Nouveau Testament. C'est pas pour rien que Dieu a manifesté sa puissance de façon tellement éclatante ce jour-là. Parce que dans le fond, il disait, voici le groupe sur lequel je fonde mon Église pour accomplir la mission que j'ai établie dans mon plan. C'était un point marquant dans l'étape du plan de Dieu. C'est pas pour rien que Dieu a utilisé sa puissance de cette façon-là. Ça l'a mis le sceau d'authenticité sur son Église. Voici quelle est mon Église. Voici quels sont mes serviteurs. Et après, ces serviteurs-là ont accompli des miracles extraordinaires. C'était encore le sceau de Dieu pour montrer où étaient ces vrais serviteurs. C'est intéressant de voir ça parce que on voit que Pentecôte de l'an 31 de notre ère, Dieu a répandu son esprit sur un groupe de ses serviteurs. Et là, ça les rendait capables et d'accomplir l'œuvre et de changer. Mais à la première Pentecôte de l'Ancien Testament, première Pentecôte pour Israël physique, Dieu avait fait des miracles extraordinaires aussi. Il avait marqué de son sceau l'événement qui se passait là. Et l'événement qui se passait là, c'était le don de ses lois, le don des 10 commandements. Vous irez voir dans Exode 19, Exode 19, versets 16 à 19. Je vous le lis ici. Le troisième jour au matin, c'était le jour de la Pentecôte, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp était saisi d'épouvante. À quel point c'était fort! C'était pas une petite tempête de tonnerre ou d'éclairs normale. Il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que ça qui était en train de se passer, et Dieu, avec ça, marquait de son sceau, par sa puissance, ce qui se passait là. Dieu était en train de donner ses lois codifiées à son peuple. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne, le mont Sinaï. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Vous imaginez un immense tremblement de terre, que toute la montagne est vibrante, est tremblante, là, en plus de tous les sons, de tout ce qui se passe autour. C'était vraiment marquant. Et verset 19, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement par-dessus tout ça. Quand Dieu fait ça, c'est parce qu'il marque de son sceau un événement majeur. Et c'était un événement majeur. Parce que tout de suite après, là c'est dans Exode 19, Exode 20, là vous avez les 10 commandements qui sont donnés sur le mont Sinaï. Alors voyez-vous, Pentecôte de l'Ancien Testament, première Pentecôte, vous avez des miracles extraordinaires que Dieu fait. Première Pentecôte du Nouveau Testament, où Dieu donne son esprit à un groupe, en l'an 31 de notre ère, des signes, des sons, des manifestations extraordinaires aussi. Toutefois, je fais une nuance ici, lors de la première Pentecôte du Nouveau Testament, le plus important, et c'est vrai pour nous aussi, n'était pas visible à l'œil. Il n'était pas audible à l'oreille, par rapport à ce que je viens de vous décrire, le tremblement de terre, le son de la trompette et tout ça. L'événement majeur qui était en train de se passer à ce moment-là était d'un autre niveau. C'est que Dieu mettait un peu de sa puissance extraordinaire à l'intérieur d'un premier groupe d'êtres humains. C'est ça qui se passait en arrière-scène, si vous voulez, ou en même temps. Et c'est l'événement le plus important, parce que le restant, c'est des signes extérieurs, oui, qui montrent la puissance de Dieu, qui dit « Voici où sont mes serviteurs, voici mon Église du Nouveau Testament ». Mais l'événement majeur qui se passait, c'est que le Saint-Esprit entrait dans ces gens-là. Ces quelques appelés qui se repentaient n'allaient plus jamais, jamais être les mêmes. Tant et aussi longtemps qu'ils allaient se soumettre à Dieu. Tant et aussi longtemps qu'ils allaient se soumettre à Dieu. C'est la même chose pour nous. Quand Dieu nous appelle, on se soumet à Dieu, il nous aide à faire le chemin, on est baptisé, on reçoit son esprit, et après, il faut continuer le combat jusqu'au retour du Christ. Mais on peut toujours changer, on peut toujours abandonner. Il ne faut pas le faire, mais on reste toujours des êtres libres jusqu'à la dernière minute. Via leur choix de se soumettre à leur Créateur, ils allaient être transformés. Ils allaient être rendus capables de faire sa volonté. De plus en plus, de mieux en mieux, et d'accomplir son œuvre. D'annoncer là, le témoignage à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, et graduellement à travers le monde, comme nous on fait maintenant, par le même esprit, par la même force. Mais là, je reviens à ça, c'est que ces appelés-là n'allaient plus être les mêmes, et ils allaient être capables, ils l'ont fait, d'accomplir des choses phénoménales, pas par leur puissance, mais par la puissance de Dieu. Et c'est ça qu'il faut réaliser, nous autres, à la Pentecôte. Pour continuer à demander à Dieu son esprit et de vraiment l'utiliser. C'est comme ça qu'on peut avancer. C'est comme ça qu'on peut vaincre. C'est comme ça qu'on peut développer le caractère de Dieu. Je reviens à ce monde-là. Ces gens-là, avant ça, étaient des gens timides. On regarde les textes, on le voit. C'était des gens craintifs et même des gens peureux. On le sait. Écoutez, tous les disciples, quand ça s'est mis à vraiment mal aller pour le Christ, quand il a été arrêté et tout ça, ils l'ont tous abandonné. Après les 3 ans et demi d'enseignement qu'ils avaient eu et tout ça, ils n'avaient pas la force nécessaire. Ils se sont retirés. Ils l'ont abandonné. C'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'étaient pas des surhommes ou des surfemmes, si vous voulez. C'était des êtres humains et ils avaient besoin, comme vous et moi, d'avoir une puissance supérieure pour être capables d'avancer spirituellement, de développer le caractère de Dieu et d'accomplir son œuvre. Ils allaient, ces gens-là, désormais être remplis du Saint-Esprit. Mais vous savez, ça veut dire quoi? Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance du Christ. Ils allaient avoir en eux la foi du Christ, non pas leur foi humaine, parce que la foi est un fruit du Saint-Esprit, est un fruit de la puissance de Dieu. Alors, ils allaient avoir en eux la foi du Christ, et c'est celle-là qui est puissante. Et ils allaient avoir en eux le même courage que le courage du Christ. Pourquoi? Parce que c'est le courage du Christ qu'ils allaient avoir en eux par l'Esprit du Christ. C'est comme ça qu'ils sont devenus capables de prêcher l'Évangile avec autant de force qu'on voit dans les textes. Et en toutes circonstances, même que certains d'entre eux l'ont fait au prix de leur vie, ou au prix de grands sacrifices, au prix de rejet, au prix d'avoir été battus, emprisonnés et tout ça, humainement, c'était pas possible. Dieu les a aidés à passer à travers. C'était par la force de Dieu. Je vous donne simplement quelques exemples qui vont vous aider à comprendre ce que fait la puissance de Dieu dans des êtres humains. Ça nous encourage de le voir de même, parce que nous sommes des êtres humains. Et on a besoin de la même puissance qu'eux ont eue. Et on peut l'avoir, on l'a en fait, mais il faut l'utiliser, il faut la demander. Mais c'est rassurant de savoir qu'on peut compter sur l'aide de Dieu pour avoir cette force pour aller de l'avant. Prenez l'exemple simplement de Paul. C'était qui Paul avant d'être un apôtre? Paul, c'était un meurtrier. Paul, c'était quelqu'un qui combattait l'Église de Dieu, qui faisait emprisonner et qui faisait tuer des gens parce qu'il croyait au vrai Dieu. Qu'est-ce qu'il est devenu, Paul? Par la puissance de Dieu, il est devenu un apôtre de l'Église qu'il combattait. Et il est devenu un serviteur des membres de l'Église de Dieu. On ne peut pas partir de plus loin pour aller à plus loin de l'autre côté, là. Quand je vous parlais tantôt d'un changement total, c'est un exemple extraordinaire qui nous est donné. Puis même en cours de route, quand on regarde la feuille de route de Paul, c'est impressionnant, parce que Paul a dû travailler très fort pour témoigner de la vérité, pour annoncer l'Évangile dans toutes sortes de circonstances. Lui, il a été battu, il a été mis en prison, il a passé du temps dans la mer agrippé après un bout de bois, comme il raconte et tout ça. Il n'a jamais remis Dieu en question à cause de ça. Il n'a jamais dit Dieu m'abandonne parce que j'ai des problèmes ou parce que c'est difficile à faire le travail qu'il me demande de faire. Au contraire, il a demandé à Dieu son aide pour compléter le travail. Mais vous, il n'a pas remis Dieu en question, ni son plan. Et Dieu permet que certaines de ces choses-là nous arrivent pour former notre caractère, pour nous préparer aux choses qui s'en viennent, pour qu'on développe le caractère de Dieu, qu'on développe l'amour de Dieu pour les autres et la persévérance du Christ. Encore là, si j'ai peur de ne pas persévérer, moi, je peux demander à Dieu de me donner son esprit en abondance et que j'ai la persévérance du Christ pour être capable de passer à travers. Et là, je vais être capable de passer à travers. Même que l'apôtre Paul, vous savez, avait un problème, on pense que c'était un problème avec ses yeux. Il a demandé à Dieu d'être guéri. Il a été oint 3 fois et Dieu ne l'a pas guéri. Paul n'a pas dit « Dieu ne me guérit pas, donc Dieu ne m'aime pas » ou « Il veut me punir » ou non. Dieu avait jugé que dans son cas, c'était préférable qu'il ne soit pas guéri pour les raisons que Dieu connaît. Alors, Paul a encore remis sa confiance au Dieu Tout-Puissant qui sait ce qu'il fait. C'est ça. Et nous, quand on vient à l'Église, on apprend ça en cours de route. On apprend cette perspective des choses. Et ça nous encourage de voir des serviteurs de Dieu comme Paul avoir réussi à passer à travers ce genre de circonstances-là avec succès. Vous avez l'apôtre Pierre, c'est exactement la même chose. C'est passé d'un extrême à l'autre. L'apôtre Pierre a eu peur comme c'est pas possible. Vous vous rappelez, lors de l'arrestation du Christ, quand ils ont dit, « Toi, tu fais partie de ce groupe-là, tu connais le monsieur qui vient d'être arrêté? » Il a dit, « Non, 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 je connais pas, je connais pas. » Il a trahi son maître, il a eu tellement peur à ce moment-là. Ça, c'était l'apôtre Pierre. Par contre, après qu'il a eu reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, le même Saint-Esprit que nous avons reçu, qu'on peut utiliser, qu'on peut redemander, après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à la foule. Il est sorti dehors, il s'est adressé à la foule qui s'était rassemblée, parce que la foule s'était rassemblée à cause du grand vent, à cause du bruit, à cause des signes extraordinaires qu'il y avait et que les gens ne comprenaient pas. Et là, Pierre a pris la parole devant eux. Et pas pour leur dire, vous êtes beaux, vous êtes gentils, venez comme vous êtes, aimez Dieu, mais faites rien de plus. Non! Pierre les a condamnés. Le monsieur qui avait peur, là, d'être associé au Christ, a sorti dehors et a dit à ces gens-là, « Vous avez tué le Christ. » Et il les a condamnés pour la mort de Jésus. Et il a affirmé qu'il devait changer pour plaire à Dieu et pour lui appartenir. Acte 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Vous pourrez lire tout le chapitre, c'est vraiment enthousiasmant de voir ça. Et regardez le verset 36. Il dit « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Il recommence encore. Il dit « C'est vous autres qui êtes responsables de sa mort. » Et c'était vrai. C'était vrai sur le plan physique là. Mais c'était vrai aussi spirituellement parce que tous avaient péché, comme nous on a tous péché, et qu'au point de départ on est tous sous l'amende de la mort, qu'on est tous responsables de la mort du Christ. C'était profond comme déclaration, mais il leur a parlé avec force, avec conviction. Pierre a affirmé qu'il devait changer. Acte 2, versets 37 et 38, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Dieu appelait un grand nombre de ces gens-là. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, donc regrettez d'avoir transgressé les lois de Dieu, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. » De quel Saint-Esprit est-ce qu'il parlait? Oh! Il était placé pour le dire. Le même Saint-Esprit que lui venait tout juste de recevoir et qu'il avait, pour ainsi dire, changé dans son cas instantanément pour être capable de sortir puis s'adresser à la foule avec une telle vigueur, avec une telle clarté et avec une telle autorité. C'était le même Saint-Esprit qui était offert à ces gens-là. Il dit, vous allez recevoir le même Saint-Esprit que nous venons de recevoir et qui est en train de nous transformer. Il y avait eu le grand bruit du vent, il y avait eu les langues de feu, les apôtres avaient parlé en d'autres langues que la leur, et les gens, vous pourrez voir, lire les versets 4 à 8, il y avait des gens, des Juifs et des Israélites de plusieurs autres régions, de plusieurs autres langues, de plusieurs autres pays qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte, et la Bible dit clairement que chacun les entendait en plus dans sa propre langue. OK? Donc, c'était pas un langage incompréhensible. Il y avait un miracle qui était double, si vous voulez. Les apôtres parlaient dans des langues qui n'étaient pas la leur, dans des langues autres, dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises, c'était pas leur langue maternelle. Et en même temps, les gens de ces très nombreuses nations qui étaient là les entendaient dans leur propre langue individuellement. C'est clairement donné dans les textes. Mais Pierre est allé plus loin que ça. Puis je veux vous montrer encore que Dieu se servait de sa puissance comme témoignage pour ces gens-là et pour nous qui, dans un sens, étions là, parce qu'on s'est dit au début qu'on entrerait dans cette situation-là, qu'on vivrait ça avec eux. On vient d'entendre l'apôtre Pierre qui a donné un message aussi fort, aussi puissant, mais là, il va plus loin parce qu'il rappelle aux gens qui l'écoutent des paroles du prophète Joël que Dieu avait inspirées. Dieu avait inspiré son prophète longtemps auparavant pour donner les signes miraculeux que Dieu allait accomplir dans cette période de temps. Les signes miraculeux que Dieu avait donnés, par exemple, à la mort du Christ, au moment où le Christ est décédé, 7 semaines avant la Pentecôte. Voyez-vous, l'apôtre Pierre parle de ça, mais il parle de quelque chose maintenant qui est arrivé pas longtemps avant, là, 7 semaines avant la mort, c'est-à-dire au moment de la mort du Christ. Regardez le verset 20 de Acte 2. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. » Ça avait été annoncé dans le prophète Joël qu'au moment de la mort du Christ, le soleil se changerait en ténèbres et la lune en sang. Et quand vous regardez l'histoire, le soir de la crucifixion du Christ, mercredi le 25 avril de l'an 31, il y a eu une éclipse lunaire majeure et la lune est devenue rouge, comme ça avait été annoncé par le prophète Joël. Puissance de Dieu qui a annoncé les choses, qui les a faites arriver. Et là, l'apôtre Pierre dit, rappelez-vous que quand le Christ a été crucifié, le Christ dont vous êtes responsable de la mort, ce que le prophète Joël avait annoncé, ça s'est produit. Les ténèbres sur toute la terre et ensuite cet élément qui mentionne ici, la lune couleur de sang. Et un autre signe que vous trouverez dans Matthieu 27, verset 45, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, c'est-à-dire de midi à 3 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Annoncé par le prophète Joël, comme on vient de le voir. Exactement. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. » Dans l'après-midi, le soleil s'est changé en ténèbres et le soir, la lune s'est changée en couleur de sang. Verset 19, acte 2, qu'est-ce qu'il dit encore? Dieu avait annoncé par Joël, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et après ça, des miracles en bas sur la terre. » Les prodiges en haut dans le ciel, on l'a vu, la lune en sang, les ténèbres sur toute la terre durant l'après-midi. Mais maintenant, les miracle sur la terre, comme on voit dans Matthieu 27, versets 51 à 53, il est dit ceci. « Et voici, là c'est les miracles sur la terre, le voile du temple se déchira en deux. » C'était impossible de le déchirer. Aucun être humain ne pouvait le déchirer, tellement c'était comme un tapis épais. Et il s'est déchiré du haut en bas. « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. » On parle des miracles en bas sur la terre qui avaient été annoncés par Joël. Et là, Pierre leur rappelle. Il dit, vous connaissez les textes. Les gens connaissaient les textes. C'était des gens qui étaient érudits dans les textes de Dieu. Les rochers se fendirent. Et regardez, plus que ça, d'autres miracles se sont produits à ce moment-là qui avaient été annoncés. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Au moment de la mort du Christ, Dieu a permis que certains de ceux qui lui appartenaient, qui étaient déjà décédés, reviennent en vie avec leur corps physique. Bien sûr, ils ont vécu un certain temps et ils sont morts par la suite, une deuxième fois pour ainsi dire. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, en plus des ténèbres, en plus de la lune rouge, il y avait le voile du temple qui s'était déchiré, le grand tremblement de terre, et après la résurrection du Christ, des serviteurs de Dieu qui étaient décédés, qui sont revenus à la vie. Toutes ces manifestations-là, ça s'appelle puissance de Dieu. Ça s'appelle puissance de Dieu. Il l'a manifesté de façon spéciale au moment de la Pentecôte pour donner le sceau d'autorisation à son Église, le sceau d'authenticité à son Église. Et ça rejoint le titre de mon message, c'est la puissance de conviction. La Pentecôte, c'est la fête de la conviction. Et je pourrais dire la fête de la conviction absolue. Qu'est-ce qui s'est produit à la suite du discours de Pierre? On le voit très bien dans Acte 2, versets 40 et 41. « Et par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération mauvaise. » Comme il nous est dit à nous, au temps de la fin, « Sortez de Babylone. Sortez de toutes les façons de faire de cette société. Restez à part. Ne participez pas au mal. Et je vais vous bénir, je vais être avec vous. Je vais vous guérir, je vais vous protéger. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000. Dieu, encore là, manifestait sa puissance, et il appelait ce grand nombre de personnes. Versets 46 et 47, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. » Je peux imaginer facilement l'enthousiasme qu'il devait avoir à ce moment-là. Écoutez, il venait de vivre tous ces événements-là extraordinaires. Il voyait la puissance de Dieu en action. Quel encouragement! Et chaque jour, ils se rencontraient, ils se voyaient au temple, ils étudiaient les textes, ils priaient ensemble. Ils rompaient le pain. Rompre le pain, ça veut dire prendre leur nourriture, prendre un repas ensemble. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, ceux qui étaient sauvés ou ceux qui étaient appelés à être sauvés. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la toute petite Église de la Pentecôte était tout petite au point de départ. On parle d'environ 120 personnes qui étaient réunies là, pour le jour de la Pentecôte. La toute petite Église de la Pentecôte, elle a grandi rapidement. Même le premier jour, au moment de la Pentecôte, on parle de 3000 personnes qui ont été baptisées. Mais par après, ça a continué. Ça a continué de façon magistrale. Quand vous allez à Acte 21, verset 20, vous pourrez aller voir, les membres de l'Église de Jérusalem ont dit plus tard à Paul, un peu plus tard dans le temps, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. » Ça avait littéralement bouleversé Jérusalem. Tellement la petite Église de Dieu était en train de prendre de l'ampleur et avait un impact majeur sur la société autour. Pour que les gens disent ça à Paul, est-ce que tu as vu le nombre de milliers de personnes maintenant qui croient, qui sont zélées? C'est fantastique, Dieu bénissait. C'était le début de l'Église. D'ailleurs, il y a une émission que M. Gerald Weston a fait en anglais, une émission télévisée. Le titre, c'est « Ils ont tourné le monde sans dessus dessous ». Et ça décrit très bien ce qui est arrivé à ce moment-là. L'Église était très connue, comme nous allons être bientôt très connus. Parce que Dieu va donner à l'Église d'accomplir une œuvre à un niveau sans précédent au temps de la fin pour que le témoignage effectivement se rende à toutes les nations. Et en toute fin, comme on sait par la Bible, Dieu va donner à deux de ses témoins une puissance extraordinaire, encore la puissance de son Saint-Esprit. À partir de Jérusalem, ils vont annoncer au monde entier pourquoi il y a la Troisième Guerre mondiale, pourquoi tous ces fléaux, pourquoi tous ces problèmes, et ils vont annoncer le retour de Christ et le changement des choses. Ils vont prêcher pendant 3 ans et demi le vrai Évangile, mais ça va aller sur toute la planète, comme c'est annoncé dans les textes. Alors, voyez-vous, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons retrouver encore même plus que cette dimension d'œuvre que l'Église a connue au début. ce sera encore plus grand que ça. Si vous cherchez à faire la volonté de Dieu, et je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est ce que vous voulez faire, soyez patients, soyez tenaces, surtout tenaces à demander à Dieu de vous donner de son Saint-Esprit et de vous donner d'être capable de faire sa volonté. Tout le reste, il va s'en occuper. Tout le reste, il va s'en occuper. C'est notre première responsabilité. Mais si vous cherchez à faire sa volonté, sachez que c'est le même esprit qui agit en vous. Celui dont j'ai décrit l'impact dans l'Église originelle. L'impact par l'apôtre Paul, l'impact par l'apôtre Pierre, les changements totaux dans leur vie, l'Évangile qui s'est annoncé à grande échelle à ce moment-là, comment ça a bouleversé la société, comment ça va encore marquer le monde entier très bientôt. Pas parce qu'on va devenir une grande église, mais parce que Dieu va donner à ses serviteurs la puissance nécessaire pour atteindre le monde entier. C'est ce même esprit qui agit avec vous. Si vous venez d'arriver à l'Église, mais que vous n'êtes pas encore baptisé, si vous commencez à comprendre des choses, c'est parce que Dieu vous a donné un peu de son Saint-Esprit avec vous, non pas en vous. Mais le jour où vous serez plus tard baptisé, au bon moment, il faut attendre le bon moment, il faut que la personne soit prête, qu'elle ait compris, qu'elle ait fait le processus nécessaire, mais que lorsqu'elle est baptisée, elle reçoit en elle la puissance de Dieu, comme ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère. Mais c'est le même esprit. Et cet esprit de Dieu-là, il nous motive, il nous encourage, il nous aide à voir de plus en plus les choses dans la perspective de Dieu et être capable de compter sur lui. On a des choses à faire pour que ça fonctionne. Bien sûr, on a notre part à jouer, à faire, mais on peut le faire seulement par la puissance de Dieu. Et on peut passer à travers les épreuves seulement par la puissance de Dieu. Et plusieurs d'entre nous sont là aujourd'hui parce que Dieu les a gardés dans toutes sortes de circonstances qu'on n'a peut-être pas réalisées en cours de route. Parce que lui avait dans son plan de nous appeler à un moment précis dans notre cheminement humain. Dieu savait à quel moment c'était le mieux. Soit plus âgé, soit plus jeune, soit d'âge moyen, soit après avoir vécu même certaines expériences, parfois extrêmement difficiles. Lui, c'est tout ça. Il est capable de tout mesurer. Il est le Tout-Puissant. Et ses pensées sont infiniment élevées au-dessus des nôtres. Et il a une sagesse qu'on n'a pas. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut apprendre à lui faire confiance et à compter sur l'esprit de la Pentecôte pour voir les choses à sa façon. Puis être capable de mettre, pour ainsi dire, spirituellement, un pied devant l'autre, de continuer d'avancer, pas après pas. C'est ce même esprit-là qui nous motive. C'est le même esprit qui nous anime, qui a animé Paul, qui a animé Pierre, M. Armstrong, M. Appartient. C'est le même esprit qui nous guide, parce que cet esprit-là nous montre le chemin à suivre, et parfois il y aura des situations extrêmement difficiles qu'on aura à rencontrer, mais c'est marqué dans la Bible, je ne m'y reporterai pas, mais que ses serviteurs vont à un moment donné trouver dans leur cœur les chemins tout tracés, c'est-à-dire qu'ils sauront quelles décisions prendre dans certaines circonstances, même s'ils sont seuls, s'ils sont proches de Dieu. Par son esprit, il va les guider. S'il continue à vouloir lui obéir et à le supplier de leur donner de faire sa volonté et de dire à Dieu, montre-moi le chemin à suivre maintenant. Ça peut arriver, comme M. Meredith nous a dit souvent, qu'on se retrouve dans des situations où on soit complètement seul, qu'on ne peut pas compter sur personne d'autre, mais on peut compter sur quelqu'un qui est plus important que tous les êtres humains et qui est plus puissant que tous les êtres humains, celui qui donne son Saint-Esprit, qui soutient l'univers entier par son Saint-Esprit. C'est par son Saint-Esprit qu'on peut être encouragé. C'est par son Saint-Esprit qu'on peut être consolé. La Bible dit que Dieu est un Dieu de consolation. Et au cours de notre vie, c'est inévitable. On a des peines, on a des chagrins, on a des pertes, on a des désillusions. Mais c'est par son Saint-Esprit qu'on peut être consolé, en ne perdant pas de vue aussi la grande perspective de ce qui nous attend. Ce que nous avons à vivre maintenant est passager. Il s'agit simplement, pour se le prouver, de regarder, quel que soit notre âge, notre vie depuis le début, et ça nous paraît comme quelques instants. C'est comme ça. Dans peu de temps, le Christ sera revenu, et dans peu de temps, le gouvernement de Dieu sera là. Nous, on a été appelés maintenant à faire partie du petit troupeau. de l'Église de la Pentecôte, de l'Église qui se voit offrir le Saint-Esprit, qui se voit aider, soutenu, motivé, encouragé, consolé, être convaincu. C'est le même esprit qui vous convainc, même esprit qui a convaincu Pierre d'être aussi certain de son appel, du chemin à suivre et des responsabilités qu'il avait. C'est le même esprit qui va vous aider à tenir bon si vous le demandez chaque jour et si vous l'utilisez pour atteindre le but. Ça fait partie de nos responsabilités. Je dois l'utiliser et je dois l'alimenter, ce Saint-Esprit-là, en moi. Comment je dois faire pour l'alimenter, pour l'utiliser? C'est de vivre selon les lois de Dieu, de prendre les bonnes décisions, de demander à Dieu de m'aider à aider quelqu'un qui a besoin, et ainsi de suite, à être patient, à être encourageant pour les autres autour. Ça, c'est une façon d'utiliser le Saint-Esprit, et ça nous rapproche de Dieu. Autre façon d'avoir cet esprit-là, par la prière. Je ne peux pas être proche de Dieu si je ne lui parle pas. Et je dois lui parler chaque jour, et je dois avoir une période de temps privilégiée au cours de chaque journée où j'ouvre mon cœur à Dieu. Dans mes paroles, pas des paroles écrites d'avance, là. Dans mes paroles à moi, pour le remercier d'abord, le reconnaître comme mon Père, celui qui me donne tout. Le remercier de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant pour l'œuvre, pour l'Église, pour la libération de l'humanité. Lui demander de continuer à bénir son œuvre. Et à la toute fin, lui demander pour mes besoins personnels, mais après les besoins des autres dans l'Église. Par le jeûne régulier aussi. Parce que c'est un moyen privilégié de vraiment montrer à Dieu qu'on veut lui appartenir, qu'on est prêt à humilier notre âme, à passer par ce test-là, pour ainsi dire, et ça insiste, ça lui montre qu'on y tient. Et bien sûr, comme je mentionnais tantôt, à mettre en pratique les choses que Dieu nous dit de faire. Maintenant, en terminant, je veux vous citer une partie d'un article de M. Appartient. Quand j'ai lu ça en préparant mon message, j'ai dit « Wow! » Ça va exactement avec ça et c'est tellement encourageant. Et ça prouve que la foi nécessite de la conviction et des actions. Et c'est pour ça mon message, la Pentecôte, une fête de conviction. Il faut être convaincu et il faut agir. Et ça va ensemble, ça ne peut pas être dissocié. Si je crois vraiment ce que Dieu me demande de faire, je vais m'appliquer à le faire. Je vais demander son aide pour le faire, mais je vais m'appliquer à le faire. Je ne peux pas mettre ça sur la tablette. Sans ça, je vais m'atrophier spirituellement, je vais limiter le travail du Saint-Esprit en moi et je risque de perdre ma route et je risque même de perdre le salut ou la vie éternelle. C'est pas pour rien que dans Jacques 2, verset 17, c'est écrit que si la foi, la conviction, si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte. S'il n'y a aucune œuvre avec la foi est morte. Et la personne qui avait la foi la perd même. Et perd sa route, et peut perdre de salut. C'est pour ça qu'il faut que je l'entretienne. Et je l'entretiens, la foi, par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? Alors, c'est pour ça que je dois nourrir chaque jour de la parole de Dieu en faisant mon étude. Maintenant, je vous cite, en terminant, un passage de l'article de M. Dibord Appartient, qui est paru dans le Living Church News de septembre 2007. Il dit ceci. Considérez-vous parfois la vérité comme allant de soi. Donc, il dit, considérez la vérité comme précieuse. Ne prenez pas ça comme quelque chose, bon, je sais. Considérez-vous parfois la vérité comme allant de soi. Vous ne devriez pas. Faites l'effort de vérifier les choses. C'est pour ça qu'on peut lire, relire et relire les mêmes passages bibliques. Tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on en est davantage nourri et on en vient à faire des liens qu'on n'avait pas fait avant. Et la parole de Dieu qui est vivante nous nourrit. Mon épouse est en train de refaire pour, je ne sais pas, la énième fois son cours de Bible, et elle me disait encore cette semaine qu'elle venait de trouver une perle qu'elle n'avait pas trouvée les premières fois. Mais c'est ça, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et on peut la revoir maintes et maintes fois, et on découvre toujours des aspects extraordinaires, même nouveaux, comme quand on regarde un diamant sous différents angles. Alors, il dit, vous ne devriez pas considérer la vérité comme allant de soi. Faites l'effort de vérifier les choses pour les prouver et avoir une meilleure compréhension. La conviction requiert des actions. On ne peut pas être convaincu si nous n'agissons pas selon ce que nous croyons. Je dis ça autrement. Si je crois à quelque chose et que j'agis en conséquence, ça renforce ma croyance hein, cette chose-là, tout simplement. C'est automatique. La conviction requiert des actions. Cela demande des efforts, c'est vrai. Pour affermir votre conviction, il vous faut y travailler avec acharnement et rigueur, en étudiant et en priant davantage. C'est simple, simple, simple. Mais parfois, on oublie les choses simples. Ou dans le brouhaha de la vie, dans les exigences de la vie moderne tellement trépidantes et qui nous cherchent à nous amener ailleurs, on peut oublier ces choses de base. C'est pour ça qu'il dit, il faut y travailler avec acharnement, avec rigueur, en étudiant et en priant davantage, chaque jour. Remarquez la belle description que donne la Bible concernant la conviction d'Abraham. Il a agi selon ce qu'il croyait. Et il ne douta point. Je cite Romains 4, versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Dieu avait fait une promesse, Abraham l'a cru et a agi en conséquence. Dieu vous a fait une promesse. Dieu vous a fait la promesse de la vie éternelle. Si vous faites votre part en marchant dans ses voies et en le suppliant de vous transformer, de vous aider à faire sa volonté. Il a dit, jamais je ne vous délaisserai, jamais je ne vous abandonnerai. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Et dans cette déclaration-là, ça voulait dire pour qu'elle ait la vie éternelle, la vie la plus abondante qui soit. Je reprends la citation concernant Abraham. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est intéressant parce qu'on a tellement de preuves dans la Bible de promesses de Dieu qui ont été accomplies. Et ici, dans l'Église même, parmi les membres, des gens qui ont reçu des bénédictions après avoir agi selon Dieu et tout ça, Dieu est un Dieu fidèle. Alors, M. Appartient continue en disant, « Voilà une foi avec conviction. Elle vous ouvre toutes les portes et vous aide à résister à toutes les tentations. Et plus ça va aller, plus il y aura de tentations autour, plus il y aura de pression aussi. » Puis il y aura de persécution, ces choses-là viennent. Elle vous ouvre cette fois-là, cette conviction-là, toutes les portes et vous aide à résister à toutes les tentations. Par elle, vous surmontez tous vos sentiments de découragement et d'échec. Et vous êtes des êtres humains, vous avez un jour ou l'autre des sentiments de découragement et des sentiments d'échec. Nous en avons tous. Mais pour être capable de les surmonter, c'est là qu'il faut avoir cette foi de conviction qu'Abraham avait, qu'on peut compter sur Dieu en toutes circonstances. Parfois, Dieu va changer les circonstances pour que le problème se règle. Parfois, Dieu va laisser le problème être là, mais il va nous changer, nous, pour nous donner la force de passer à travers la circonstance, comme il a fait avec l'apôtre Paul. Si vous avez, M. Appartient termine ainsi, si vous avez cette sorte de conviction, vous pouvez être certain que vous demeurerez toujours fidèle à Dieu et que vous resterez dans son Église. Fantastique. C'est tellement encourageant et ça résume vraiment le chemin que nous avons à suivre à partir de l'appel de Dieu, de son Esprit qui nous donne pour qu'on soit capable d'arriver à terme. Et voyez-vous, cette sorte de conviction par le Saint-Esprit, une foi de conviction, dans le fond, là, c'est notre point de non-retour. Quand on a cette sorte de conviction, il y a un point de non-retour dans notre vie spirituelle qui est atteint. Comme pour M. Armstrong, comme pour M. Appartient, comme pour le roi David, comme pour les serviteurs de Dieu qui ont été fidèles jusqu'au bout. À un moment donné, il y a un point de non-retour qui s'appelle une conviction absolue et rien ne peut nous empêcher d'atteindre le royaume par la puissance de Dieu, par ses bénédictions d'une façon ou de l'autre, soit qu'il enlève les problèmes ou soit qu'il nous donne la capacité de passer à travers. Mais avec cette sorte de conviction, on a franchi le point de non-retour sur notre route vers la vie éternelle et vers le royaume de Dieu.